Bon, donc on a décidé de changer un petit peu le dispositif cet après-midi, à la fois pour gagner un petit peu de temps, pour laisser du temps pour la discussion générale qui me semble importante, pour voir les perspectives de travail, la continuité du travail collaboratif entre nous, et puis la question de la diffusion des travaux, des ressources à construire, etc. Donc il faut garder du temps, je pense, là-dessus. Deuxièmement, on a constaté tous là que que la mayonnaise prenait bien, quoi, que la parole était très ouverte et très libre, et que dans le fond, habituellement, on dit qu'en petit groupe, ça parle davantage, mais on a vu qu'en grand groupe, ça fonctionnait fort bien, et il y avait une dynamique importante qui venait. Donc, changement de dispositif, c'est-à-dire que je vais présenter le travail que nous faisons, et puis après, on fera la discussion collective là-dessus. Alors, présenter un tout petit peu rapidement le travail pour dire aussi que je n'ai pas pu réussir à résister aux sollicitations de notre amie Françoise, et donc j'ai fini par intégrer en résistant beaucoup, non pas parce que j'avais pas envie, mais parce que j'ai trop de travail, j'ai fini par rejoindre le groupe là, qui s'est constitué ici. Et donc, en fait, on a commencé à travailler très, très récemment. Hein. En fait, on a commencé les premiers tournages et la première réflexion au mois de janvier. Et donc, c'est vraiment les débuts du travail qu'on va essayer de vous proposer. Quand je dis « on », dans un premier temps, j'ai beaucoup travaillé avec Michel Lacage, qui est là. Donc, je vais essayer de vous présenter et de réfléchir avec vous et vraiment avec votre aide pour essayer de voir la... d'autres perspectives de travail et les prolongements et les réorientations, etc. Mais il va de soi que si j'ai accepté d'entrer dans cette recherche, c'était une seule condition, c'est pas un caprice, c'était que ça me permette de continuer des travaux entrepris ailleurs et d'essayer de vérifier en collège si des hypothèses que nous avions sur l'école primaire pouvaient fonctionner. Hein. Donc, comme nous étions en train de travailler sur la notion d'atelier, je vais y revenir, à l'école primaire et notamment au CP, l'idée c'était de voir si ce que nous observions en CP était possible aussi en collège et dans le fond, pourquoi pas en lycée, mais on n'a pas encore du tout essayé. Donc, la question de l'atelier, une réponse parmi d'autres pour la gestion de l'hétérogénéité, parmi d'autres, va dans cette direction. Alors, encore une fois... il n'est pas question de prescription. Hein. Il est question de commencer, de faire émerger des réponses collectivement travaillées, interrogées, objectivées, pour essayer de trouver des éléments de réponse aux questions qui sont apparues ce matin, et puis qu'on connaît depuis longtemps, sur notamment l'extrême hétérogénéité des élèves. Alors, est-ce que ça marche, ça ? Non, si. Alors, l'arrière-plan théorique, je vais aller vite, hein. L'arrière-plan théorique, je suis obligée de le donner, puisque ça s'inscrit véritablement dans cette recherche. L'arrière-plan théorique, c'est les travaux du laboratoire sur les gestes professionnels et ce que nous avons construit. Je vous en présenterai je vous en ferai une présentation à grande et immense vitesse, juste pour vous donner un aperçu. Et puis, l'arrière-plan aussi, c'est le travail que nous faisons sur le cycle 2, d'ailleurs en collaboration en partie avec l'INRP aussi, et qui aura une publication sans doute à la fin de l'année. Voilà. Alors, très vite, hein, on a travaillé pendant 4 ans sur les gestes professionnels des enseignants dans les débuts de cours, et en réalité, on a abouti à une modélisation sur des invariants de l'activité enseignante, des invariants que l'on rencontre de la maternelle à l'université, avec cette idée qu'il y a toujours 5 grandes préoccupations qui s'enchassent les unes dans les autres, qui s'emboîtent les unes dans les autres, qui sont systémiques, modulaires, enchâssées, etc., qui sont des préoccupations de pilotage de la tâche, l'avancée de la tâche, contrainte de temps, d'espace, de matériel, etc., qui sont une préoccupation majeure pour nos jeunes débutants. Ok. Voilà, et qui joue beaucoup aussi sur la dimension du corps parlant de l'enseignant, de sa gestuelle, du corps parlant des élèves. Une préoccupation de la gestion que nous avons appelée de l'atmosphère, c'est-à-dire de toute la dimension des relations interpersonnelles, les espaces dialogiques, une atmosphère ludique, créative, studieuse, tendue, etc. Et cette modification permanente de l'atmosphère, puisque ce sont des personnes qui se parlent et qui vivent ensemble. Une troisième préoccupation qui est très déficitaire, nous l'observons dans tous les enseignements académiques, mais beaucoup moins dans l'enseignement professionnel, préoccupation que nous avons appelée de tissage, qui renvoie à la capacité de l'enseignant à faire des liens entre le déjà appris et le à apprendre, entre le début de la leçon et la fin de la leçon, entre le dehors de l'école et le dedans de l'école, et ce matin on voyait, entre les différents espaces d'apprentissage ou différents dispositifs. Ces gestes de tissage sont très très déficitaires dans la plupart des observations que nous faisons. Ils tournent autour de 7-8% des préoccupations de l'enseignant pendant la leçon. Nous, on travaille sur la leçon. Alors qu'en lycée professionnel et dans l'enseignement supérieur professionnel, on peut monter à 50% des gestes professionnels où on fait sans arrêt le lien pour faire sens, donner du sens à... Enfin, l'autre grande préoccupation, évidemment, c'est la préoccupation d'étayage. Comment l'enseignant s'y prend pour faire apprendre, faire comprendre, faire parler, faire penser, etc. Les formes d'étayage. Et évidemment, au cœur de tout cela, la préoccupation des objets de savoir, des techniques, des méthodes, des attitudes, etc. Alors, l'ensemble de ces préoccupations, évidemment, c'est un concentré de savoir théorique qu'il y a derrière, qu'on ne développe pas, mais que nous avons essayé de didactiser pour faire sens. Alors ça, c'est la première étape de notre travail que nous avons fait dans les années 2003 à 2007. Et puis maintenant, nous en sommes à une... juste un petit retour en arrière. Autour des objets de savoir et des techniques, il y a des gestes didactiques très très précis qui conjuguent l'ensemble des autres gestes qui organisent l'avancée du savoir. Alors c'est une présentation à plat, c'est pas une présentation dynamique, c'est une présentation un peu heuristique. Aujourd'hui, la question sur laquelle nous travaillons, c'est l'articulation entre les postures enseignantes, les gestes des enseignants, et puis les postures des élèves, les gestes d'étude des élèves, l'activité des élèves. La coactivité maître-élève, par quel mécanisme se produit cette coactivité, par quel mécanisme il y a des freins, des résistances, ou au contraire des points d'appui. Donc c'est sur la question de la coactivité que nous travaillons maintenant, sachant que nous avions avancé par le passé sur la question des postures des élèves. Là, j'en parlerai pas aujourd'hui, on n'a pas le temps, je vais très vite. Je ne suis pas obligée de prendre le TGV quand même. Sur la diversité des postures d'étayage, nous avons avancé aussi très récemment, avec encore beaucoup de points d'interrogation là-dessus, avec le postulat qu'un enseignant performant, efficace, efficient, serait un enseignant qui est capable de circuler sur différentes postures. Ça veut dire qu'il change de braquer, quand il monte la côte avec les élèves, il va prendre plusieurs vitesses possibles, revenir, ralentir, réaccélérer, s'y prendre de différentes façons. Et nous avons identifié, alors encore une fois, de manière en essayant de simplifier, de chercher des prototypes, des mots qui parlent, nous avons identifié une posture d'accompagnement, une posture d'accompagnement, on a parlé ce matin dans les ateliers d'aide, etc. Une posture d'accompagnement, le maître aide les élèves à faire, il ne fait pas à leur place. Il y a une certaine atmosphère assez détendue, il y a l'utilisation des outils qu'il apporte, il pointe la tâche, etc. Alors on voit bien qu'il y a Brunner derrière, on est dans le... etc. Une posture de contrôle, au contraire, le maître... le mot est mal choisi, il faut qu'on travaille dessus. Posture de contrôle, c'est l'idée que le maître veut absolument que tout le monde avance en même temps. Il est le chef d'orchestre, il orchestre tout. Donc il est obligé sans arrêt d'envoyer du feedback pour que tout le monde soit en phase, et il veut faire fonctionner tout le monde en même temps. Voilà. Donc évidemment, du point de vue du pilotage, de l'atmosphère, c'est plus tendu, le tissage, on n'a pas le temps, etc. L'espace de parole n'est pas très ouvert. D'accord. Une posture d'enseignement qu'aujourd'hui on dit, il faudrait plutôt dire une posture de conceptualisation, c'est les moments précis où l'enseignant conceptualise, où il apporte des savoirs que les élèves n'ont pas, il fait ce que les élèves ne savent pas faire, et il y a des petits moments où on n'est que dans de l'enseignement. Voilà. Une posture d'apparent lâcher-prise, qu'on pourrait appeler une posture de mise en autonomie des élèves, d'une certaine façon. Évidemment, l'atmosphère est tout à fait haute, le pilotage quelquefois est délégué à un élève. Une posture de... Alors là, après bémol sur les deux dernières postures, une posture de surétayage, c'est une posture quand le maître, pour des raisons multiples et diverses, fait à la place de l'élève pour finir, pour que l'élève ait quelque chose d'achevé, etc. Ou alors une posture de surétayage, il pose la question, il n'attend pas la réponse, et il fait la réponse lui-même. Hein, on a tous fait ça. Voilà. Et en travaillant avec les professeurs d'art plastique, là, récemment, ils m'ont suggéré l'idée de réfléchir à une posture de sous-étayage, de momentané sous-étayage, pour effectivement laisser de la place à de la créativité qui pourrait émerger, etc. Donc, en d'autres termes, là, l'idée, c'est que l'enseignant va circuler sans arrêt, l'enseignant performant va circuler sur ces différentes postures, et ce qu'on constate très fréquemment chez les enseignants débutants, c'est qu'ils ont tendance à être quand même majoritairement ou sur des postures de contrôle ou sur des postures d'enseignement. Le lâcher prise, ils ont trop peur, parce que ça va faire du bazar, parce que, etc. Du surétayage, on en a beaucoup. Voilà, donc développer de la professionnalité, ça serait développer une manière de circuler dans des postures avec l'idée que les élèves ne sont pas sensibles à des gestes professionnels tout petits, singuliers, parce qu'il y en a des milliers pendant une séance, mais ils sont sensibles aux postures et aux changements de posture de l'enseignant. Hein. Voilà un petit peu l'hypothèse que nous avons. Donc, on a d'autres travaux qui renvoient aux postures des élèves, mais là, je laisse de côté, qui renvoient à des travaux anciens sur le lire et l'écrire. Mais voilà. Donc, après... Tiens, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas mis dans le bon ordre. Donc après et en même temps, nous travaillons conjointement avec cette idée que d'apporter des réponses, d'aider à construire des réponses, à essayer de trouver des formes scolaires qui permettraient de résoudre un certain nombre des questions qu'on s'est posées ce matin, d'ailleurs, un certain nombre des questions qu'on s'est posées seulement. Et donc, nous proposons de reprendre l'atelier qui est de la culture de l'école maternelle, hein, de la culture de l'école maternelle, où on a appris à mettre les élèves avec un enseignant pendant que les autres faisaient autre chose avec les ATSEM ou tout seul, plutôt avec les ATSEM à l'école maternelle, et puis où on fait circuler tous les élèves. Tous les élèves passent dans l'atelier. Donc, cette idée, nous l'avons reprise pour la grande section de maternelle et l'école primaire, et nous la théorisons pour l'instant comme suit. Dans l'atelier, on donne une tâche complexe qui est résolue à plusieurs. En gros, on tourne autour de l'idée, les collègues à qui on a fait beaucoup de formations continues déjà là-dessus pour essayer de tester, les collègues disent 6, 7 élèves est le bon chiffre. Un espace de temps limité, 30 minutes, parce qu'en fait, il y a des organisations générales de la semaine et du travail pour que tous les élèves passent dans les ateliers et que les ateliers ne soient pas que pour certains élèves, pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation. Tous les élèves doivent passer dans l'atelier, comme à l'école maternelle. Donc, il y a toute une organisation à penser, et 30 minutes semble être une dose convenable. Et on a vu en collège, ce qu'on commence à regarder, c'est que 30 minutes aussi pourrait, pour le collège, être une bonne moyenne. L'enseignant dans l'atelier à la fois discute de manière duale avec des élèves, hein, intervention, mais aussi intervention collective. Ça veut dire que dans l'atelier, il y a de l'étayage singulier, individuel et collectif en permanence, hein, ce double étayage individuel et collectif. Le but, c'est effectivement de travailler sur l'hétérogénéité des élèves avec une réponse très ajustée à chaque élève. Et bien évidemment, le but, c'est de faire de l'observation des élèves et de faire du diagnostic. Voilà. La clé de voûte du système, c'est que l'enseignant devient extrêmement disponible pour des ajustements très très spécifiques pour chaque élève. Et donc, c'est vraiment un accompagnement de proximité, un étayage de grande proximité qui est possible. Et il va permettre cet étayage de la mise en place chez les élèves, de travailler avec les élèves, de gestes d'études qui sont spécifiques. En gros, je repensais au problème de méthodologie qu'on discutait ce matin, mais entraide, réflexivité, tissage, on a déjà fait ci, on a déjà fait ça. Utilisation des instruments, là, il est clair qu'il y a une activité qui est transversale, hein, mais en même temps, la mise en place de gestes d'études chez les élèves spécifiques de la tâche. Hein. Si on est en CP en lecture, c'est des gestes spécifiques. Si on est en écriture, c'est des gestes spécifiques, etc. Et un des items forts de la proposition, c'est que l'atelier va permettre des verbalisations multiples sur divers registres où les savoirs vont être formulés sur des registres divers, les savoirs, les tâches, les techniques vont être verbalisées. Donc voilà un petit peu cette forme scolaire sur laquelle nous essayons de travailler et sur laquelle nous essayons de voir s'il y a de la transférabilité. Alors, on va vous passer des vidéos. Alors, un million d'excuses, on n'est pas du tout pro, enfin moi en tous les cas. Le montage est très mauvais, le son n'est pas très bon. Ça a été évidemment le dernier tournage, on a dû le faire mercredi dernier, donc c'est vous dire l'amateurisme de la présentation. Mais ça nous paraissait important, puisque Michel, au Collège des Escoliers, prof référent, a accepté de s'engager dans cette recherche, de questionner sa pratique, d'interroger les possibilités de cette forme. Ça nous paraissait important de donner à voir avant qu'on mette en place l'atelier sous ces conditions-là, encore qu'on est en train de commencer à essayer de le mettre en place, et puis le début du travail pour voir le chemin parcouru et comment on pourrait continuer de travailler. Alors, donc on vous donnera des vidéos, on demandera votre indulgence pour la qualité du son et le découpage. Et puis, quatre pistes de discussion. Alors, la première qui serait, alors évidemment, très difficile parce que vous aurez que des petites bribes, l'analyse comparative des deux séances, hein, la première étant Michel en janvier, c'est ça ? Et la deuxième en février, hein. Voilà. L'analyse comparative des deux séances en termes de gestes professionnels, est-ce que dans les bribes qu'on va vous donner, vous voyez l'évolution de gestes professionnels? Est-ce que vous voyez l'évolution de forme d'activité des élèves, hein, puisque c'est ce qu'on cherche, hein, on cherche pour les élèves. Est-ce qu'ils sont dans d'autres formes d'activité? De se poser la question du bénéfice de ce dispositif en collège, des limites pour l'enseignant, hein, bénéfices et limites pour l'enseignant et pour les élèves, hein, essayer de poser ce premier type de questions. Mais au-delà, ce qui nous importe beaucoup pour la suite de nos travaux, hein, de notre recherche, c'est qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de mise en place d'un tel dispositif en collège. Donc là, on en appelle à l'expérience aussi bien des cadres institutionnels que des enseignants. Est-ce que c'est dans toutes les disciplines, dans certaines disciplines, sur certaines tâches, la durée, la fréquence, comment vous pouvez envisager ça, l'évaluation de ça aussi, hein, probablement. Et puis une troisième question, c'est qui est une question qu'on reposera pour l'ensemble de nos travaux, c'est à quelles conditions pour la diffusion de ce genre de dispositif. Comment il faut s'y prendre pour ne pas rencontrer des résistances, des oppositions, etc. Je ne sais pas, on est vraiment là, on est en train de... Grosse question. Et enfin, une question qui nous fait souci beaucoup, et Pierre est là sans arrêt pour nous le rappeler, mais cette question des continuités, des ruptures entre la maternelle, l'école primaire et le collège. Alors du coup, je vous passerai aussi une vidéo d'atelier d'écriture à l'école primaire tout à l'heure, pour qu'on voit un petit peu... qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de différent et voilà les perspectives de travail. Donc on a posé beaucoup de questions et beaucoup de problèmes ces deux premiers jours. Là, un bribe d'éléments de réponse et encore une réponse extrêmement embryonnaire. Hein. Bon, juste une petite... C'est moi qui ai fait le découpage avec une de mes collègues en l'absence de Michel et puis on avait le souci avec ma collègue de vous donner très peu de, de vidéo, parce qu'on sait que la vidéo, si on en donne trop long, ça lasse, c'est difficile à suivre. Donc du coup, on a peut-être trop coupé. Hein. Alors il a donné, et tu diras lequel, il a donné un problème, et là où vous l'avez, les élèves ont déjà fait le premier geste professionnel de faire lire le texte, a été fait, donc les élèves ont lu le texte, et il est en train de passer la consigne sur le texte, mais il faut que tu expliques le dispositif spatial de la classe pour qu'on comprenne un peu.
Ok, je vais y aller.
Vas-y.
Je parle sans micro, ça va ? Pas de problème.
Voilà, la classe est partagée en fait spatialement en trois rangées de tables, et là en l'occurrence elle est partagée... Il y a deux groupes formés entre une rangée et la moitié de la rangée suivante, et puis le deuxième groupe dans l'autre partie. Alors les élèves travaillent en groupe avec moi dans les deux rangées, donc la rangée et demie qui se trouve ici à droite à l'écran, et l'autre groupe travaille en autonomie avec un fichier qui comporte en fait des problèmes, des énigmes. Donc, je travaille avec eux sur un problème, et l'objectif, c'est de... En fait, je sollicite des élèves la narration de leur recherche. Donc, j'attends une recherche et des traces écrites de leur recherche, évidemment. Je signale qu'on travaille ainsi depuis le mois de novembre à peu près, et la mise en place des deux groupes a été effectuée avec l'assistante pédagogique, qui, sur la première séance, est présente. D'ailleurs, vous l'apercevrez peut-être dans un des groupes. Alors, l'assistante pédagogique a permis de tempérer les élèves et finalement de bien mettre en place les consignes. Donc là, on en arrive à une période où les consignes ont été comprises. Donc, ça vous allez voir pour le déroulement de la séquence, la séance ici, mais les consignes sont bien comprises. Voilà. Quant au problème, je sais pas si je pense pas utile vraiment de rentrer dans le détail du type de problème qui a été donné. Simplement, c'est un problème qui est relativement ouvert. Donc, au moment où le film commence là maintenant, l'énoncé a déjà été distribué et les élèves ont déjà lu individuellement, puis un élève a lu à voix haute le problème. Voilà. Alors, je veux dire, voilà, il faut préciser que là, on a passé les 10 minutes de recherche individuelle ou en petit groupe. Et un élève, celui qui est au tableau, est en train de proposer une démarche, une stratégie. Donc, il est en train d'exposer sa stratégie aux élèves, aux autres.
On a trop coupé. Et puis...
Alors, bon, je vais expliquer. Donc, là,
transformation
au niveau de la répartition spatiale. Donc là, la classe est partagée en trois groupes. Il y a toujours les trois rangées. Et en fait, chaque rangée a une tâche spécifique. Donc, il y a la première rangée, celle avec laquelle je suis là actuellement, qui va justement travailler en atelier sur un problème ouvert également. Juste une petite parenthèse pour ceux qui étaient au restaurant hier soir. En fait, le problème, c'est un défi, c'est un problème de jeu de roulette. Le deuxième groupe travaille à nouveau, comme on avait fait précédemment au mois de janvier, sur des problèmes, des énigmes. Et le troisième groupe, en fait, travaille sur des fiches, toujours sont des fiches autonomes, de tracés géométriques. Voilà, donc il y a deux groupes qui sont en autonomie. Lors de cette séance vidéo, l'assistante pédagogique n'était pas là, donc les deux groupes sont seuls complètement. Et au début de la séance, les élèves donc, qui sont assis, sont les mêmes élèves que lors de la précédente séance, ont eux-mêmes mis en place les tables, c'est-à-dire que là, en gros, ils ont formé un U, et donc c'est eux qui ont déplacé les tables au début de la séance. Voilà.
Tu as décidé de tourner le dos au reste de la classe.
Oui, je suis face au mur, là.
Pour éviter le déplacement de table.
Voilà. Oui, il faut dire qu'au niveau du déplacement des tables, j'avais un petit peu réfléchi à la manière de les mettre en place pour que les élèves le fassent eux-mêmes, puis qu'ils remettent les tables en place. Autrement dit, je me suis placé dans l'hypothèse d'une classe lambda qui souhaiterait mettre en place ce type d'atelier et qui n'a pas forcément de temps avant, après, pour déplacer les tables. On peut évidemment imaginer qu'il n'y ait aucune classe qui vienne, qui suive ou qui précède, mais dans l'hypothèse où finalement c'est une classe qui est à un moment donné, qui est suivie, qui est précédée, il faut gérer ce problème de déplacement. Juste un problème par rapport, une remarque concernant le problème qui est proposé. problème de jeu. En fait, c'est un problème sur lequel travaillent une quinzaine de classes sur l'académie. Et un des objectifs, c'est que les élèves, durant 5 semaines, cherchent le problème et, pour cela, travaillent de manière collaborative. C'est-à-dire que les élèves peuvent poser des questions, les changer, les poser à d'autres classes, et il y a des retours qui s'effectuent. Donc, on postule finalement que le travail collaboratif va permettre aux élèves de rentrer dans le problème et de rentrer aussi dans la résolution. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a la différence d'ambiance et la mise en autonomie. En fait, la mise en autonomie a été faite progressivement entre le mois de novembre et de janvier. Et donc là, il n'y a pas du tout eu de différence entre les deux séances. L'unique différence, c'est qu'entre la première et la deuxième séance, les élèves ont travaillé de cette manière-là à 2 reprises déjà. C'est-à-dire en séparant 3 groupes et en modifiant les tables de manière à ce que je sois face aux élèves, en proximité avec les élèves. Alors, les groupes ont été formés simplement par leur présence dans la classe, c'est-à-dire il y a 3 rangées, donc ça a donné 3 groupes, de manière que dans la première version, il y avait 2 groupes qui étaient constitués par 1 rangée et demie, point, et puis 1 rangée et demie la suivante. Donc il n'y a pas eu du tout de recherche de regroupement par affinité ou autre. Par contre, les différentes rangées sont quand même hétérogènes, puisque ça, elles avaient été mises en place au mois de septembre, et les élèves un peu difficiles étaient relativement répartis. Par rapport à la rotation et puis au fonctionnement des groupes, lorsqu'il y avait 2 groupes, je fonctionnais en fait à raison de 1 heure par semaine un jour et puis le lendemain, 2e heure. Donc il y avait changement des groupes. Ça signifie que j'étais avec un groupe un jour et puis le lendemain avec l'autre groupe. Avec la structure en 3 groupes, en fait, je tourne sur 2 semaines. Autrement dit, ça signifie que je consacre 2 heures par semaine à faire ce type de travail. Sachant qu'en mathématiques, c'est une classe de 6e, nous avons dans mon collège 5 heures. Voilà. Donc sur 2 semaines, je consacre 3 heures où tous les groupes sont tournés, puis on recommence.
J'ajoute moi que sur les éléments atmosphériques, dans le premier cas, il y a 2 élèves très très difficiles que tout le monde connaît dans l'établissement, le petit Mohamed que Michel prend à un moment donné pour le calmer, là. Et puis un autre qu'on voyait la première fois qui était absent. Et là, ils ne sont pas dans le groupe. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte pour le film, pour neutraliser l'affaire, la comparaison. On sait très bien que c'est des facteurs à prendre en compte.
Oui, facteurs à prendre en compte, ça signifie que le Mohamed en question, qui était dans la première séance avec moi, dans la deuxième séance, se retrouve seul juste derrière, donc dans la rangée qui... ici, travailler sur des tracés géométriques.
Oui.
Est-ce que vous avez interrogé les élèves eux-mêmes sur ce type de fonctionnement pour savoir comment ils réagissent ?
Pas encore.
Alors, je ne les ai pas interrogés, mais c'est eux-mêmes qui spontanément m'ont interpellé, m'ont donné leur point de vue sur le dispositif global de fonctionner en groupe depuis le mois de novembre. En fait, chaque semaine, ils attendent que l'on arrive à ces heures-là, justement, pour travailler ainsi. Donc, ce n'est pas du tout moi qui leur ai demandé, mais ils sont vraiment en demande. Et notamment, au cours du premier mois, c'est-à-dire novembre et puis début décembre, il y avait une certaine jalousie lorsque un groupe, finalement, ne pouvait pas travailler avec l'assistante pédagogique. Sachant que chaque semaine, j'avais donc 1 heure avec l'assistante pédagogique et 1 heure seule. Et c'est vrai qu'ils apprécient énormément d'avoir l'assistante pédagogique avec eux. D'accord.
Direct ou indirect ?
Alors, par rapport à la première question, il est clair qu'en 30 minutes, les élèves ne peuvent pas aboutir à une réponse en tant que résolution aux problèmes posés. Les problèmes posés sont par nature relativement difficiles, justement pour les obliger à rentrer dans la narration de leur recherche. Autrement dit, on veut qu'ils mettent en place des démarches. Alors, l'objectif, et ça, il a été clairement explicité aux élèves, c'est d'expliciter leur démarche, de raconter ce qu'ils font, et absolument pas d'arriver à une réponse. C'est-à-dire que ce qui est valorisé, et ça leur a été dit au début, c'est vraiment qu'ils cherchent ensemble et qu'ils avancent dans la résolution. Alors, pour le premier problème, c'est un problème de galette, je veux dire plutôt un problème de logique. En fait, le problème a été repris lorsque tous les groupes sont passés pour arriver à une réponse collective. finale. Pour le deuxième problème, qui est posé de la même manière à des classes de 6e jusqu'à la première S, c'est vrai qu'on ne s'attend évidemment pas à ce qu'il y ait vraiment une résolution, même lors de 30 minutes. Mais par contre, ce qui est important, c'est de travailler sur la compréhension du texte, du problème. L'objectiviser, c'est que les élèves s'approprient le problème, éventuellement qu'ils le reformulent. Donc, on peut dire que là, l'objectif qui était visé lors de la séance de 30 minutes, c'était qu'il y ait une compréhension du texte, une appropriation. Éventuellement, qu'ils proposent une reformulation de questions s'ils le souhaitent. Donc, c'est un objectif qui a été atteint. Et c'est vrai que lors de chacune de ces séances, il y a un objectif tout de même qui est fixé, mais qui n'est pas la résolution du problème, qui est une étape dans la démarche de résolution.
Moi, j'ajouterais là, parce que j'ai un tout petit peu travaillé sur ces deux séquences, mais encore très peu, c'est que ce qui m'a frappé sur les deux problèmes, c'est qu'il y a des gestes, des invariants didactiques, des gestes professionnels didactiques complètement les mêmes, demande de lecture de l'énoncé à un, deux, voire trois élèves. Deuxièmement, vérification de la compréhension des mots de l'énoncé, donc compréhension du texte. Et puis après, il y a la demande de recherche la demande d'écriture de la réponse, d'écriture de la recherche. Dans les deux cas, de manière insistante, Michel revient en disant écrivez ce que vous faites, écrivez. Et là, dans la première séance, il y a très peu d'élèves qui écrivent. Il y en a un qui écrit. Dans la deuxième séance, tous écrivent. Alors, c'est dommage, on les avait filmés, mais je pourrais vous les montrer tout à l'heure, si vous voulez. Mais tous écrivent à cette injonction d'écrire, même s'ils résistent, etc. Ils finissent tous par écrire, et la dernière qui résiste, comme tous les autres autour d'elle ont écrit, elle les regarde, et puis elle finit par s'y mettre, parce que les cinq autres, ou les quatre autres, je ne sais pas comment ils sont.
En fait, ils étaient six.
Les cinq autres ont écrit, donc elle s'y met aussi, et elle écrit sa proposition de solution. Donc, l'injonction de faire écrire, l'injonction, le geste de faire expliquer pourquoi on fait cette proposition, on le retrouve aussi. Ce qui fait, alors, on retrouve les mêmes gestes dans les deux séances, comme s'il y a une sorte d'invariant dans la manière de faire ça. Sauf que, vous ne le voyez pas évidemment, dans la séance d'atelier, les mêmes gestes reviennent plusieurs fois. Donc, plusieurs fois, on fait relire le texte, on fait revenir sur le texte. Plusieurs fois, on demande d'écrire. Plusieurs fois, on demande d'expliquer. Plusieurs fois, on revient sur la question, mais quel est le problème posé? Quelle est la question posée? Alors que dans la première séquence, ça se déroule de façon linéaire. Dans l'atelier, il y a récursivité des mêmes gestes. Voilà ce que j'ai observé, sous réserve de faire une analyse très, très fine et très détaillée. Hein. Enfin, tu voulais dire quelque chose?
Il y a une question là.
Voilà.
Il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, mais très rapidement, les autres groupes travaillent, un, sur la résolution de problèmes avec des fiches autonomes, donc il y a un lien indirect avec ce que l'on fait, mais ce n'est absolument pas sur le même problème, du tout. En fait, ce sont vraiment trois tâches complètement différentes. Par exemple, la tâche sur les activités géométriques, c'est uniquement un réinvestissement de notions qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas depuis le cycle 3. Et l'aspect un petit peu ludique qui leur permet de rentrer dans l'activité en étant seul.
Alors, pour répondre aussi à cette question, sur les ateliers d'écriture et de lecture en CP, on avance beaucoup sur ces questions-là. Par contre, on essaie de dire aux enseignants que toute la classe, si on est en atelier d'écriture, toute la classe est en écriture, sous des formes différentes. Ou si on est en lecture, toute la classe est en lecture, pour qu'il y ait une sorte de communauté. De leçons. On est en leçon d'écriture, on est en leçon de lecture, mais les dispositifs sont différents pour qu'ils s'y retrouvent par rapport à cette question. Et c'est vrai que probablement il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Hein. Oui?
Je voudrais savoir par rapport au changement de climat.
L'atmosphère.
Oui. On en a décelé entre ces deux séquences, une en janvier et une en février. J'ai une question que je me pose. Est-ce que ce n'est pas lié à l'objet même du support, à savoir Pour la première séance, c'était un problème. C'était une résolution de problème, un problème. La deuxième séance, c'était un problème en lien avec un projet. Est-ce que les élèves étaient au courant, est-ce que je pense qu'ils le savent, que c'était ce problème qui était sur 15 collèges, c'est ça ?
15 établissements, enfin 15 classes, oui.
Alors, est-ce que ça y fait ? Est-ce que le fait de savoir qu'ils participent à une œuvre collective, que ce travail relayé qui sera relayé après avec d'autres petits copains comme eux, est-ce que ça a à voir, est-ce que ça pourrait s'expliquer qu'il y ait eu ce calme, ce... Ouais. Je pose une question simplement. Est-ce qu'on peut faire du bien ?
J'aurais pu le dire, ça aurait pu, si le premier problème, justement, n'avait pas été déjà intégré à un projet. Cet autre projet, c'est en fait un tournoi mathématique que l'on organise sur les 5 écoles, enfin 6 écoles élémentaires, donc CM1, CM2 et les 6e. Et donc les élèves avaient été impliqués en novembre sur ce tournoi mathématique entre toutes ces écoles et les 6e et rebelote en février. Donc ils savaient qu'on travaillait sur la résolution de problèmes et justement dans le cadre de ce projet qui les avait énormément motivés, ça veut dire que leur motivation était... ou aurait pu être très forte lors de la première séance, mais le changement d'atmosphère, enfin, on en a discuté après avec Dominique, et c'est vrai que mon impression à la suite des deux séances, c'était le même jour de la semaine, c'était un mercredi matin, le contexte était exactement le même, et c'est vrai que l'impression en sortant des deux séances est complètement différente. Alors, je tiens d'ailleurs que ce travail le mercredi matin, nous avons 2 heures consécutives. Lors de la première séance, donc, on avait commencé par ce travail en groupe. Heure suivante, on était reparti sur une activité plus magistrale et puis exercice, je veux dire, classique. Et l'ambiance de la classe était, chaude, électrique que dans le passage qui est là. Lors de la deuxième séance, on a continué. En fait, à la fin de la première heure, 2 élèves qui étaient absents sont arrivés, 2 élèves d'ailleurs assez agités, perturbateurs, ils sont rentrés, c'est vrai que le climat de la classe était serein, les élèves se sont assis, et l'heure suivante s'est passée sans aucune difficulté, alors que justement le fait d'arriver comme ça en cours de route aurait pu amener autre chose. Donc le changement d'atmosphère, je ne peux pas le lier à la nature de l'activité. Donc.
Nous, on fait l'hypothèse, là, depuis un certain temps, dans les travaux qu'on a menés dans le laboratoire, que cette question de l'atmosphère est probablement décisive, parmi d'autres, évidemment, enfin, est très, très importante, notamment en ZEP. Que la façon dont l'élève va se trouver bien ou pas bien, reconnu comme personne, ou au contraire comme élève perturbateur, ou pion, ou liste, etc., va décider de son engagement. Voilà. En d'autres termes, les postures des enseignants et les postures des élèves sont des engagements réciproques. Une posture, c'est une manière d'être à la tâche. Hein, il y a différentes manières d'être à la tâche. Mais c'est comme on est entre humains, c'est un engagement par rapport à l'autre aussi. L'autre qui est les copains, mais aussi l'autre qui est le maître. Et c'est un engagement par rapport à soi-même. Donc c'est cette espèce de jeu qui va se jouer beaucoup, mais pas que dans les relations, hein, dans l'atmosphère. Mais aussi, et je crois que c'est important de le souligner, sur l'objet sur lequel on travaille, la nature de l'objet sur lequel on travaille, la complexité du problème, la difficulté du problème. Ici, un problème de loterie, comment gagner à la loterie nationale, hein, franchement, c'est quand même un peu excitant pour certains élèves.
On était dans un casino.
Oui, on était dans un casino. Non, casino, pardon, casino. Donc, c'est vrai qu'il y avait une dimension, mais clairement... ce qu'il est en train de dire, que c'est probablement un des éléments explicatifs, mais probablement pas le seul. Hein, pas le seul qui explique cet enrôlement des élèves entre eux qu'on observe dans la deuxième. Et, enfin, j'ai laissé une longue séquence sur le premier parce qu'on voit très bien que quand il est au tableau en train de discuter avec un élève, en relation duale, les autres sont complètement largués, en dehors, ils ont déconnecté, ils ont coupé. Et à aucun moment dans la séance d'atelier, on a vu des élèves qui avaient coupé le fil, sauf une petite fille, Ajar, dont tu as le sentiment tout le long, qu'elle n'avait pas suivi, et tu me dis qu'au final, après coup, le lundi suivant, elle montrait qu'elle avait en fait silencieusement tout enregistré.
Et je signalerai que lors de la séance donc, d'atelier, une élève qui s'appelle Charlène, que l'on voit bien plutôt dans le premier film que dans le deuxième, donc une élève qui habituellement ne participait pas, qui était vraiment très timide, qui est en relative difficulté quand même, a vraiment participé. Elle a elle-même proposé des réponses, des solutions, et elle était vraiment très active. Donc c'est vrai que l'atmosphère était mais vraiment complètement différente. Et pour l'enseignant, c'était vraiment la nuit et le jour, c'était une autre.
Le contrat est plus clair. Le contrat didactique est plus clair et plus lisible.
D'ailleurs, la posture d'enseignant debout par rapport à ce groupe, effectivement, ne permet pas de rentrer vraiment en atelier. Parce que pour les élèves, je pense qu'ils perçoivent ça comme un cours, on va dire, à la mine magistrale. Alors que là, ils sont peut-être trouvés en porte-à-faux. D'où ce vacarme, ce brouhaha, parce que finalement, ils ne s'y retrouvaient pas, et que ben forcément, ils ne s'y retrouvent pas, donc ils ont envie de faire autre chose. Et c'est vrai qu'en tant que geste professionnel, c'est une idée de ma carrière que je n'avais jamais eue, finalement, de travailler de cette manière-là, et de déplacer les tables. J'aurais même tendance à dire que c'était presque un tabou. Bon, on est dans une classe, les tables sont rangées d'une certaine manière, bon, on ne va pas les bouger, on les laisse telles quelles. Et là, c'est vrai que la volonté a été chaque fois de les faire déplacer par les élèves, et honnêtement, j'ai été vraiment très étonné, parce que les élèves, même les élèves les plus en difficulté ou les plus réfractaires, sont ravis finalement de participer quoi, à ce moment. C'est un moment, mais quand même de vie collective, où justement on va mettre les tables de manière à travailler ensemble. Et alors, ça, c'est un détail, mais c'est vraiment très bien.
Alors, la question de recherche du labo, moi qui est derrière, hein, plus large, au-delà de cet exemple de l'atelier, c'est en quoi les postures du maître et ses façons d'être à la tâche déclenche chez les élèves certaines postures, mais aussi en quoi certaines postures d'élèves vont aussi déclencher chez les profs des postures de reprise de contrôle, etc. Donc c'est cette espèce de cuisine ensemble qu'il faut qu'on arrive un tout petit peu à éclaircir pour montrer que c'est une dynamique compliquée. Et là, sur l'atelier, ce qu'on se propose de faire, c'est de continuer de regarder la nature précise de l'activité de l'enseignant quand il est en atelier, là, hein, ce qu'il fait, là, voilà, hein, et de même le lâcher prise qu'il a par rapport aux autres. C'est pas encore clair.
Et là, je voudrais faire justement une autocritique, parce que personne n'a eu l'idée de me poser la question, mais si Dominique ne m'avait pas proposé justement de rentrer dans ce type d'activité avec l'atelier, j'aurais persévéré et persisté en imaginant effectivement que d'autres heures suivantes, que j'allais continuer à avoir ce brouhaha qui n'est quand même pas propice aux apprentissages, c'est quand même clair. Et donc dans mon idée, je postulais que finalement, en persistant et on y arriverait, quoi. Et c'est là que peut-être l'acquisition de quelques gestes simples peuvent t'aider vraiment à passer un cap.
Principe, voilà.
Pas c'est une autocritique, mais je crois que c'est quand même utile.
C'est pas des gestes, c'est une posture qui s'appuie sur une théorie. La théorie de l'apprentissage où les élèves vont, avec l'aide du maître, je récite la messe, hein, avec l'aide du maître. Et entre eux, en parlant, en discutant, ils vont progressivement s'approcher de la résolution d'un problème. Et ils n'iront peut-être pas jusqu'au bout, mais ils auront fait un petit bout de chemin. Et donc, comment inventer ? C'est bien beau d'avoir des théories. Après, il faut trouver la mise en scène de ces théories. Et notre boulot de didacticien, il est là. Quelle situation on va mettre en place pour que cette théorie-là, de la construction collective, singulière et collective, avec l'étayage du maître et un étayage très particulier, qui n'est pas un étayage de contrôle, mais qui est un étayage d'accompagnement, mais pas de contrôle, et pas un étayage d'enseignement, encore qu'il y a des moments d'enseignement dans l'atelier, on est en train de regarder ça, c'est qu'il y a une théorie derrière, et cette théorie va s'incarner dans un certain nombre de gestes, hein. Voilà ce qu'on essaie de dire. Hein, non mais pour aller aussi dans ce sens-là, pour avoir fait des formations avec des professeurs de lycée et collège, on a la question des résistances profondes des enseignants, de leur culture profonde, etc. C'est un peu la question qu'il faut qu'on se pose. Comment de tels dispositifs peuvent diffuser? Quels obstacles ils vont rencontrer? Quels discours disponibles de la profession ils vont se heurter? Et comment se préparer à ces discours disponibles de la profession, dont certains sont étaient valides peut-être à une époque et ne sont plus valides, donc certains sont toujours valides. Donc il me semble qu'il faut se préparer à ces discours, à ces discours disponibles et à ces résistances. Et par rapport à la notion d'atelier, à Montpellier, à l'UFM, avec nos PE2, on les oblige. La question n'est pas là. On les oblige, enfin pas tous, dans le groupe un peu expérimental. Ils doivent mettre en place des ateliers d'écriture en CP ou en grande section. C'est obligé. On va aller voir, etc. Donc du coup, ils ne se posent pas la question si c'est possible ou pas possible, puisqu'on les oblige, on a donné des modèles, on a donné des explications. Mais du coup, on a un effet billard, puisque les classes dans lesquelles ils vont faire les ateliers, du coup, les maîtres titulaires sont assez surpris, que diable, des résultats obtenus par les élèves, par nos petits PE2 qui réussissent à faire écrire longuement les élèves, alors qu'eux en sont encore à des choses tout à fait élémentaires. Donc on est un peu pervers parce qu'on joue des effets de billard. Mais pour attaquer les doxas, il faut trouver des stratégies pour résister à ces doxas. Elles sont très fortes, mais en même temps, je crois qu'il faut théoriser ce qu'on fait. Enfin, mon point de vue, c'est ça. Hein.
Ce que je veux dire, c'est que par rapport au contexte matériel, on parlait du déplacement des tables, honnêtement, pour l'avoir pratiqué, c'est vrai que responsabiliser les élèves en leur faisant déplacer eux-mêmes les tables et en leur demandant de les remettre en place ensuite, ça les respecte en tant que personne, en tant qu'individu, et ils apprécient beaucoup, finalement. Et entre la première et la deuxième séance, il y a eu d'autres petits détails, dont un, lorsque les élèves travaillent de manière autonome, ils ont des classeurs dans lesquels ils peuvent prendre des fiches autonomes. Lors de la première séance, donc, les élèves allaient chercher ces fiches, et lors de la deuxième, il y avait un élève responsable de chaque classeur qui distribuait les fiches aux élèves. Et voilà, je pense que ce sont également des petits éléments en donnant des responsabilités. Alors là encore, c'est une culture que j'avais rencontrée effectivement en premier degré, une culture vraiment très répandue. Et c'est vrai qu'encore faut-il se dire, oui, mais je peux aussi transférer. Et ce que j'ai vu dans le premier degré, je peux aussi l'exporter dans le second degré. Et je pense que c'est une des questions que tu as posées, Dominique. Quelles sont les conditions justement pour transférer dans d'autres classes, d'autres disciplines? Je pense que c'est un enjeu important d'y répondre.
Mais la question est quand même compliquée parce qu'il faut indéniablement des ruptures pour que les enfants grandissent dans leur forme d'apprentissage à la maternelle, dans leur forme d'apprentissage à l'école primaire, au collège. Alors la rupture n'est peut-être pas au bon endroit, la coupure n'est peut-être pas placée au bon endroit. Mais indéniablement, moi c'est la question que je pose, hein. C'est pas une prescription ni un dogme, c'est jusqu'où cette séance d'atelier est utilisable, dans quelles circonstances, dans quelles disciplines, à quelle dose, en début, en fin d'année, j'ai pas du tout la réponse, hein. Je dis c'est une réponse et on voit bien qu'il s'y joue des choses de l'ordre du cognitif, ok, qu'il se joue des choses de l'ordre du relationnel entre le maître et les élèves, mais entre les élèves entre eux. Et j'allais dire, du point de vue du langagier, les élèves vont parler 200 fois plus que classe entière, puisque vous avez vu que classe entière, ils parlent très peu, il y en a un qui parle, alors que les élèves parlent entre eux. Donc sur le plan langagier, de la formalisation, reformulation, des savoirs, relis-moi le passage, qu'est-ce que tu as compris, et globalement ça veut dire quoi, on a entendu tout ça, sur le plan langagier. Et j'allais dire, sur le plan éducatif, au sens respect de l'autre, écoute l'autre, il t'a dit ça, qu'est-ce qui t'explique, et ensemble on va y arriver. Il y a des valeurs qui sont travaillées à l'intérieur de l'atelier, il me semble. Hein. Et là, on a un espace où on travaille sur différentes dimensions. Voilà. Alors, on se posait la question ce matin de l'intérieur de la classe, l'extérieur de la classe. Moi, je n'oppose pas l'intérieur et l'extérieur de la classe, et je suis persuadée qu'il faut des dispositifs autour, mais je pense qu'il faut repenser en profondeur l'intérieur de la classe avec des dispositifs, des gestes professionnels beaucoup plus précis, pointus, parce que c'est plus difficile d'enseigner. Enfin, mon point de vue, moi, quand je vais dans sa classe ou quand je vais à la classe de collège, je me dis, mais je tiendrai pas 2 heures. Pourtant, Dieu sait si j'ai longtemps enseigné en collège. Tellement ça a changé, que les élèves sont beaucoup plus hétérogènes, cultures diverses, d'où ils viennent, on ne sent pas trop. Hein, on ne sait pas où sont nos appuis. Hein, on les savait avant où étaient les appuis. Là, ils cherchent les appuis. Comment je vais entrer en parole avec eux? Parce que je ne sais pas bien où ils sont. Et ils vont me rentrer dedans. Voilà. Et donc, il y a une professionnalité beaucoup plus grande à avoir. Enfin, c'est ça, plus de professionnalité. Donc, invention de dispositifs nouveaux ou reprise de dispositifs anciens, parce que là, c'est reprise d'un dispositif ancien, réflexion sur, voilà, invention. Hein. Alors, semi-invention, on n'invente jamais à partir de rien. Moi, c'est un petit peu cette idée. Mais là, on est encore, là, c'est vraiment des... Je suis encore largement dans le brouillard. Je suis à peu près persuadée que tout ne s'y prête pas au collège et qu'il y a peut-être des choses... Alors, si vous aviez des idées, on prendrait.
Il me semble qu'il y a... une problématique liée à chaque discipline. Les profs de maths, par exemple, ont toujours été habitués à manipuler assez peu de matériel. On pouvait imaginer finalement qu'un prof de maths avait besoin d'un livre, d'une équerre, une règle de la craie, point. Je pense que les enseignants d'éducation physique, par exemple, ont toujours été habitués à gérer tout le matériel, les ballons, tout ce qu'il fallait déplacer. Et je pense que dans certaines disciplines, effectivement, il n'y a pas cette culture, parce que finalement, on a toujours considéré qu'il suffisait d'avoir voilà, quelques tables face à l'enseignant, point final. C'est un peu l'idée du cours magistral.
Alors, je vais répondre, hein. Tu ajouteras. Mais ça dépend à quel moment. Là, ces élèves de 6e placés devant le problème, moi je me suis dit, je ne connais rien aux maths, donc ça a des avantages et des gros inconvénients, mais je me suis rendu compte que le moment le plus difficile pour les enfants, l'obstacle didactique que j'ai observé, ce n'était pas du tout la compréhension de l'énoncé, des mots de l'énoncé, même le deuxième, ils savent lire, hein. Ils lisent pas mal d'ailleurs, il y a un mot qui faisait obstacle, c'est tout, c'était la compréhension des significations et de quelle était la nature du problème posé. Et cette compréhension de la nature du problème posé, c'est l'obstacle que j'ai perçu comme majeur. Et si là, on laisse les élèves tout seuls, c'est là que ils décrochent, ils font le bazar, et il y en a un ou deux qui s'y mettent. Par contre, si le maître est là pour pas à pas pointer, accompagner à ce moment-là difficile, oui, ça me paraît indispensable. Qu'après, dans le moment d'écriture, le maître se retire parce qu'il fait autre chose, pourquoi pas. Mais la question, c'est vraiment d'une analyse de la didactique du problème posé qui va nécessiter quelle posture de l'enseignant. Est-ce qu'il va nécessiter une posture de contrôle? Des fois, oui. Contrôler que la lecture a été faite correctement. Une posture d'enseignement, oui. Vérifier que quelque chose dont ils ont besoin a été acquis et le faire reverbaliser. Ou une posture d'accompagnement qui fait, vous allez voir dans l'autre film, qui est « ouais, peut-être ». Cherche donc un peu, etc. Et donc, ça se décrète pas. Hein. Et y compris à l'intérieur de l'atelier, il y a circulation dans différentes postures. Et ce qu'on ne voit pas, parce qu'on a zappé la fin là, mais l'atelier, enfin, on en discutait avec Martin hier, autant le début est important, autant la fin est importante. Comment se termine l'atelier, hein? Est-ce qu'il se termine sur « on donne la correction » Ou est-ce qu'il se termine sur des questions qu'on se pose? Est-ce qu'il se termine sur un état des lieux de jusqu'où on est allé? Voilà. Donc on a cette grosse question non résolue encore. Hein. Et une autre question forte par rapport à ce que tu disais, c'est qu'elle est clairement dans la tête des enseignants et peut-être avec des réponses très différentes d'une discipline à l'autre, le statut de l'atelier. Est-ce que c'est un lieu où on enseigne une notion nouvelle? Ou est-ce que c'est un lieu où on commence à faire la dévolution du problème, hein, la quête de la question, de l'émergence de quelque chose à chercher, qu'on pourra reprendre après, y compris de manière magistrale, en enseignement. Donc la question de qu'est-ce que je fais là-dedans, vraiment la question c'est quelle est la nature de l'activité attendue des élèves, et quelle est la nature de l'activité cognitive, langagière, relationnelle attendue des élèves. Et là on a du boulot à faire. Et sur les autant je commence à bien le voir sur les petites CP, autant je ne sais pas du tout sur les élèves de collège et encore moins dans les différentes disciplines. Et là, il me semble, enfin voilà, il me semble que là, il y a du travail à faire, par exemple. Voilà, donc ce que je vais vous proposer là, c'est de regarder un petit atelier en primaire qui nous a servi énormément en formation continue, qui nous sert beaucoup en formation, qui est une pratique complètement inventée par une collègue, enfin mise au point par une collègue, et pas du tout commandée par le groupe de recherche, hein, du tout. On lui a dit la veille, tu fais des ateliers d'écriture, on vient de filmer, voilà, et on a eu l'atelier d'écriture. Et à partir de là et d'un certain nombre, de regarder la professionnalité très très fine que ça demande. Alors je vous la passerai pas en entier, mais je vais vous en passer des bouts, si ça veut bien passer. Mais en gros, le dispositif ici, choisi par l'enseignante, mais que d'autres enseignants ne font pas du tout de la même façon, c'est de ne pas corriger en ligne et de faire avancer les petits jusque le plus possible pour qu'ils puissent écrire le plus possible, sauf sur les choses qu'ils ont déjà appris, le « où », le « on » qu'ils ont déjà vu. Là, on ne capitule pas sur le « où » et le « on », par exemple, ils ont déjà travaillé. Mais sur les lettres qu'ils n'ont pas du tout vues, on laisse l'espace de tâtonnement, voilà, on laisse monter le problème. Par contre, là, il y a le rapport à la norme qui est inscrit. Chaque enfant, à la fin, passe individuellement et la maîtresse lui donne la version correcte de la phrase. Et en gros, le système, c'est de faire passer les moins en difficulté d'abord, ce qui fait que les autres entendent 5 fois la correction. Et ça se termine ainsi. Et il y a un petit passage où on contractualise avec les élèves. Toi, il faut qu'on revoie le peu, le bœuf, etc. On contractualise l'observation que la maîtresse a faite avec les élèves. Donc voilà un petit peu le dispositif. Et puis on s'arrête là-dessus. Ouais. Voilà. Alors la question, c'est continuité de ça. Est-ce que c'est la même chose quand je suis en... Qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est la question des invariants des gestes professionnels, invariants, variations. Hein? Qu'est-ce qu'il y a comme invariant là-dedans qu'on peut retrouver? Et la question forte, c'est la question de l'évaluation et du diagnostic. Hein? Est-ce que le dispositif permet de faire du diagnostic sur ce que les élèves sont en train d'apprendre, l'état de leurs difficultés? Et est-ce qu'il faut que je donne du feedback, de l'évaluation tout de suite? Voilà. La plupart des collègues, pour l'instant, qui se lancent dans les ateliers d'écriture, ne font l'évaluation en ligne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les élèves avancent, corrigent. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, personnellement, mais bon. Ils ne supportent pas de laisser des erreurs sur la feuille pour l'instant. Voilà. Hein. Donc il y a des controverses. On a toujours de grosses controverses professionnelles sur ces questions quand on organise des stages. Statut de l'erreur dans l'atelier, statut des savoirs dans l'atelier, statut statut de l'accompagnement du maître, jusqu'où il aide, jusqu'où il n'aide pas. On a plein de questions non résolues et qui sont l'objet de controverses. Hein. En gros, l'idée qu'il y a derrière ces travaux, c'est primo de repérer des gens qui ont déjà mis au point des stratégies extrêmement performantes. La collègue a une longue pratique de l'école maternelle. Elle est passée à l'école primaire et elle a importé à l'école primaire ce qu'elle a appris à l'école maternelle. Elle a repensé à travailler. Elle a fait le master d'ailleurs au passage, master professionnel. Et donc elle a une très très grosse réflexion qu'elle utilise. Elle a une réflexion sur l'écriture aussi. Si elle laisse un long moment, par exemple, aux enfants pour inventer le texte, et qu'elle a une théorie, elle a une théorie qu'écrire, c'est inventer son propre texte. C'est pas écrire une phrase que le maître dicte, qui change l'engagement des élèves, puisque c'est eux, elle prend 6 ou 7 minutes pour laisser inventer le texte aux enfants. Alors que dans une autre vidéo, le prof impose sa phrase, et du coup l'engagement des élèves n'est plus du tout de même nature, par exemple. Hein, bon. Ça, c'est... Mais par rapport à ça, quand même... Hein, ça dépend de ce qu'on appelle outil professionnel. L'atelier ici, c'est un outil professionnel. D'accord ? C'est un outil professionnel. On ne peut pas demander aux enseignants de refabriquer tous leurs outils. C'est impensable, ça. C'est impensable. Et donc, quelque part, la question, c'est de détourner les outils, très souvent. Parce qu'on a une théorie, Ratus, on peut très bien faire une excellente leçon de lecture avec Ratus si on détourne, parce qu'on a une bonne théorie. on est capable de détourner les outils. Moi, je pense que, alors, en gros, ce sur quoi on est en train d'essayer de mettre l'accent, nous, dans notre équipe, c'est que la question de la lecture et de l'écriture au CP, c'est pas une question de querelle de méthode, c'est pas une question de querelle d'outils, d'instruments, c'est une question de posture enseignante et de ce qu'on construit comme activité chez les élèves. Voilà. Au-delà des querelles de méthode, etc., mettons-les dans une activité complexe et accompagnons-les de façon extrêmement futée, extrêmement fit et extrêmement intellectuellement outillée pour qu'ils puissent faire un accompagnement fin. Cette nouvelle professionnalité, enfin moi je vais me rabâcher, mais la nouvelle professionnalité demande une formation approfondie dans les disciplines et en dehors des disciplines d'ailleurs, sur le plan des apprentissages, théorie des apprentissages, etc., beaucoup plus poussée. Hein. Sinon on inventera toutes sortes d'outils... qui seront aussi caduques que les autres l'année suivante. Hein, et puis c'est trop difficile d'inventer des outils. Très, très. Inventer. Voilà. Donc je suis en partie d'accord, mais en partie, attention. C'est pour ça qu'on essaie de dire, dans le modèle sans doute pas parfait qu'on a fabriqué, mais que la question du pilotage de l'espace et du temps est une question décisive. Pilotage, atmosphère, tissage, on a des questions décisives. Après. La posture d'étayage, il va falloir la travailler. Mais les autres préoccupations, mine de rien, emportent le morceau quelquefois avec des toutes petites variations. Il suffit de tourner une table quelquefois. Là, par exemple, la gestion du temps est tout à fait intéressante. Elle prend beaucoup de temps, lentement au début pour le démarrage lent de l'atelier, et puis après elle va accélérer. Hein, parce que, voilà. Et donc il y a toute une gestion de la temporalité qui est très très professionnelle aussi. Et elle se garde quand même du temps pour faire le bilan de ce qui s'est passé. Et c'est des petits gestes, ça. Je saute quelque chose pour me garder 5 minutes pour faire le bilan.
Et au total, l'atelier a duré combien?
Là, il a duré 35 minutes. Donc, alors, je vous donne juste l'anecdote. On se sert beaucoup de ce stage, on se sert beaucoup de cette vidéo en formation pour provoquer des controverses professionnelles. On passe la séquence jusqu'à 20 minutes. Ils ont fini d'écrire « bonjour ». On arrête. Au bout de 20 minutes, ils ont écrit « bonjour ». On arrête et on dit aux enseignants « maintenant, vous faites quoi ? Vous êtes à la place de la maîtresse, vous faites quoi ?» Alors on l'a fait des quantités de fois maintenant, hein, et à 75%, les enseignants disent « il faut s'arrêter ». Ils sont fatigués. Alors là, la question c'est « à quoi vous voyez qu'ils sont fatigués ?» Donc controverse, etc., voilà. Et on pose la question, et donc, qu'est-ce que vous proposeriez à la place? Alors, certains disent dicter à l'adulte, certains disent c'est le groupe suivant qui fera, on reprendra le lendemain, mais là, ils sont fatigués. Donc, il y a une représentation très forte que l'activité des petits a été à son maxi. Voilà. Alors, on dit OK, on les a entendus, on les a fait parler, et puis après, on continue. Effectivement, la maîtresse a perçu une très légère fatigue chez les enseignants, puisqu'elle prend le temps de refaire finaliser la phrase qu'on va écrire. Entre-temps, il s'était un peu perdu, et elle fait redire quelle est la phrase qu'on va écrire, et c'est reparti encore pour pratiquement 20 minutes, et à la fin, vous ne l'entendez pas, et elle dit « vous êtes fatigué », et les petits disent « oh non, maîtresse !» Et donc, du coup, le « vous êtes fatigué, oh non, maîtresse » scotche les collègues, au sens où ils ont été mis collectivement en difficulté. C'est pas des personnes qui ont été mises en difficulté, c'est la profession qui est là, 18 personnes dans la salle, qui a une représentation, une doxa fausse de l'activité possible des élèves. Et donc du coup, il y a la face des enseignants un peu attaquée, mais c'est la face de la profession, c'est pas la face des personnes. Et à partir de ce moment-là, il y a une explosion, une ouverture à ce qu'on raconte, parce que les possibles des élèves, ils sont là, et d'une certaine façon, ils ont sous-estimé. Voilà. Alors, on a des entretiens d'autoconfrontation, ce que je dis, ce n'est pas du tout une impression, hein, puisqu'on a fait des entretiens d'autoconfrontation avec les gens qui ont suivi le stage, et on leur demande quel est le moment décisif du stage, et plusieurs, le moment décisif du stage, c'est ce moment-là, où ils se sont rendus compte qu'ils sous-estimaient les potentialités et les capacités des élèves. Et à partir de là, c'est parti, parce qu'on a fait bouger la représentation forte. D'où la question que je pose, quelles sont les conditions en formation, on est des formateurs ici, hein, quelles sont des conditions en formateur pour bousculer des représentations installées, professionnellement partagées, qui sont des doxas puissantes. Hein. et à nous d'inventer. Hein.
Bon, il me semble qu'il y a déjà une condition matérielle. Ça rejoint une question qui a été posée tout à l'heure par rapport aux classes. Est-ce qu'une classe finalement a sa salle attitrée ou est-ce que finalement les enseignants ont une salle qui leur est attitrée? Je pense que c'est un problème matériel qui est quand même très important. De même qu'on considère que les enseignants de SVT, de physique, de fait, ont leur salle parce qu'ils ont leur matériel qui est sur place. On peut très bien imaginer que dans toutes les disciplines, je reprends l'exemple des mathématiques, si en mathématiques, on veut mettre en place un certain matériel, une certaine manière de travailler, il faut peut-être imaginer également que les conditions sont remplies au point de vue de la gestion de l'espace, et là c'est un problème d'établissement, un problème de locaux, pour pouvoir mettre en place ceci. Et ça signifie avoir des locaux avec suffisamment de place et avec la possibilité de gérer, par exemple par des affichages permanents qui permettent d'avoir des références, par des petits détails comme la présence d'une armoire pour avoir un certain matériel et pouvoir s'y référer. Donc je pense qu'une des conditions quand même pour le développer le transféré, c'est déjà qu'il y ait les conditions. Donc,
nous, on a un obstacle à Montpellier, vous ne savez peut-être pas, sur l'affichage. Mais les pompiers ne veulent pas qu'on affiche. Ah, le taux de couverture des murs, c'est réglé?
Bien, alors on va se donner donc quelques minutes pour clore ces deux journées de travail. Donc au début, je vous avais dit que l'on était dans un processus, hein, dans une dynamique, dans quelque chose qui se construit et on découvre le chemin en marchant. Et ce processus va se poursuivre. Et ce que on souhaiterait maintenant, c'est que vous nous donniez à votre point de vue, votre avis, après ces deux journées de travail, dans quel sens on pourrait travailler, qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant, le plus pertinent, de quoi vous avez besoin, comment vous voyez les choses. On aurait besoin un peu de prospective après ces deux journées, si vous voulez bien.
Oui, et peut-être on n'a pas du tout préparé la fin de cette affaire, peut-être parce qu'on n'a pas envie que ce soit la fin, mais si l'objectif c'est de produire des ressources et par-delà les gens qui sont ici, ça pourrait être intéressant que vous nous disiez, au fond, à partir des types de matériaux que vous avez vus, de la manière dont on les approchait, qu'est-ce qui vous paraîtrait généralisable, qu'est-ce qui vous paraîtrait transportable éventuellement dans d'autres sessions de formation et d'autres personnes, et qui nous donnerait des pistes pour travailler sur ces choses-là. Enfin, il me semble que ça peut être une des approches pour ne pas perdre de vue l'objectif qui est produire de la ressource avec toujours ce problème de décalage, recherche, matériaux de recherche, matériaux de formation. Puisqu'une des difficultés des ressources, c'est quand elles deviennent un peu mortes, je dirais qu'elles se transportent, du coup les reproblématisations, les recontextualisations ne sont pas là, ce qui est un problème majeur, me semble-t-il. Et voilà, donc on attend vos idées.
Alors, je vais répondre en disant qu'il y aura des traces de notre activité, pour parler comme les chercheurs dans l'analyse du travail. Sous quelle forme, on n'a pas encore complètement défini, décidé. Est-ce qu'on va faire un dossier, par exemple, d'XYZ à partir de ce qui s'est fait? Rien n'est vraiment stabilisé, mais en tout cas, je peux vous dire que tout a été enregistré. En plus, on a les auteurs sous la main, donc on peut encore les faire travailler sans problème. Donc il y aura quelque chose, mais je ne peux pas vous dire encore quoi exactement et dans quelle temporalité.